Artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Pourquoi c'est connu ?
J'ai passé les concours de l'école des beaux-arts, mais heureusement j'ai toujours été refusée, j'ai passé 3 fois. Et puis j'ai voulu aussi être professeur de dessin parce que je devais gagner ma vie. Et j'ai encore été refusée. Je n'ai jamais eu les diplômes. Et à l'Académie Imbert, j'ai rencontré Braque. Et Braque est le premier qui a parlé du mot talent à mon sujet.
Moi, je dessinais. Je crois que je ne faisais pas de peinture. Je dessinais. Et Braque peignait. J'ai jamais vu Braque dessiner. J'ai toujours vu Braque peindre.
J'avais fait un portrait de moi.
J'usais de très peu de couleurs. J'usais de 4 couleurs. Et j'avais fait mon portrait. Alors, il y avait du noir, du bleu, du rose, du rouge et du blanc. Et le professeur de l'académie, je ne sais même plus qui c'était, nous avait demandé d'apporter ce que nous faisions. Alors j'avais apporté mon petit tableau qui était fait sur une boîte à cigarettes. C'était pas très grand. D'ailleurs, il est en Angleterre, ce petit tableau-là. Je n'ai pas osé le montrer au professeur. Et puis Braque, au vestiaire, a rencontré cette petite peinture. Il l'a vue. Il l'a emportée et, sans savoir de qui c'était, il l'a emmenée au Moulin de la Galette où il avait rendez-vous avec ses camarades. Il a dit, regardez ce que j'ai trouvé à l'académie. Alors il paraît qu'on les camarades ont trouvé ça très bien. Et le lendemain, j'ai cherché ma petite peinture. Et Braque m'appelait le petit Laurencin. Et Braque me dit, qu'est-ce que vous cherchez, petit Laurencin? Ben, je dis, je cherche quelque chose que j'ai apporté. Et Braque m'a dit, c'est vous qui avez fait cela? Je dis, oui. Il me dit, vous avez du talent. Je suis presque tombée par terre, parce que ça, je ne m'attendais pas à cela. Le mot talent dit par Braque a décidé, pour ainsi dire, de mon avenir. Il était grand, il jouait de l'accordéon. Et je crois même qu'il chantait, très bien. Mais surtout, il était, je ne dirais pas le mot séduisant, Braque était très beau. Avec Braque, je me souviens que nous avons fait une confidence, on allait donc au musée du Luxembourg. Et Braque me disait que la fameuse salle Caillebotte, il avait été quelque temps au musée du Luxembourg en ayant horreur de la salle Caillebotte. Moi aussi, j'y allais avec ma mère, je n'aimais pas la salle Caillebotte. Et puis alors, tout à coup, nos yeux se sont ouverts et nous n'avons plus aimé que les Renoirs et toute la salle Caillebotte.
Ça a été le point de départ parce qu'après, 2-3 ans après, j'ai exposé aux indépendants, d'ailleurs des choses invraisemblables et très laides, que ma mère a brûlées. Matisse m'a donné de très bons conseils pratiques. Matisse m'a dit que je ne devais jamais laisser un tableau en dépôt chez un marchand de tableaux. Parce que ça n'arrangeait pas le marchand de tableaux, ça n'arrangeait pas le peintre non plus. Et je crois qu'il avait raison. Il venait chez Guillaume Apollinaire, c'était naturellement un homme très instruit. Et il ne parlait jamais peinture, comme tous les peintres.
Le premier tableau qui a eu dont on a parlé, c'est un tableau qui représentait Guillaume Apollinaire, Picasso, la femme de Picasso, moi, et puis Kremnitz, un poète, et puis un ange aussi. Il y avait des anges en ce temps-là. Et ce tableau-là a été acheté par mademoiselle Gertrude Stein. Et elle l'a acheté plutôt pour me faire plaisir, et maintenant il est dans un musée en Amérique.
Il y en a un comme ça par génération.
Populaire.
Tendance.
Époustouflant, brillant, génial.
On commence cette émission d'Artichaut avec une introduction un peu plus particulière que les vendredis d'autrefois, avec un petit extrait de l'artiste dont Carotte va nous parler ce soir. Et j'imagine que ça vous a déjà mis dans le décor, le bain et... Et voilà, moi, ça me donne déjà envie d'en savoir plus.
Ah, l'envie me démange de te faire un ange, de te faire un ange en fourrageant ton sein. Marie Laurencin, Marie Laurencin. Donc oui, ben, c'est merveilleux.
Bonsoir.
Parce que, bonsoir Malo. Ben, j'étais toute dans le trémolo de la voix de Marie Laurencin. Je suis trop contente que l'art moderne nous ait donné pareil personnage et que comme maintenant on va arriver dans l'ère de la promotion et de la télévision, on va pouvoir écouter les artistes dont on parle et qu'on aime parler d'eux-mêmes. Et là, bon, c'est super émouvant parce que ben, on voit un peu le lien qu'elle fait avec nos émissions précédentes, puisqu'on voit que Gertrude Stein a eu la gentillesse d'acheter une petite œuvre de Marie. Et on va, là, elle parle d'elle-même, elle parle de Braque, elle parle de Picasso, elle parle bien sûr de Guillaume Apollinaire. Et moi, ces petits vers d'amour sont issus de Chansonnettes galantes de Max Jacob, qui a été son amoureux fervent pendant de nombreuses années.
Personnellement, j'adore l'artichaut.
cette émission qui parle d'art.
Alors, du coup, Marie-Laurent V, alors, hormis le fait que Gertrude Stein ait acheté un de ses tableaux, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager l'histoire de cet artiste avec les auditeurs d'Artichaut ?
Ben parce que c'est une artiste qu'on connaît finalement très peu, comme toutes les artistes femmes la plupart du temps. Celle-ci a une vie absolument rocambolesque et c'est très dommage que justement on l'ait oublié. Et en plus, nos 25 minutes vont pas être suffisantes pour raconter la vie mouvementée de Marie-Mélanie Laurencin.
On a le droit de prendre notre temps aussi. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on
pourrait le faire. C'est pas grave si Artichaut dure 35-40 minutes ce vendredi plutôt que 25. Hein. Je pense que les auditeurs en redemandent de toute façon.
Oui, d'autant que là, on a affaire, comme à une future Sonia Delaunay, dont on parlera plus tard, à une artiste complète, avec une ténacité et un acharnement à vouloir se former, digne des plus grands. C'est une peinture qui a été taxée de un peu mièvre. Alors pour moi, dans mon cœur, on dirait vraiment un Chagall féminin. Je trouve qu'elle ressemble vraiment dans la poésie en fait qui se dégage, le côté irréel, féerique de sa peinture, qui est vraiment ultra féminine et est complètement absente une forme de misogynie. Elle fait vraiment une peinture féminine pour les poètes et elle a excellé elle a été une touche à tout de génie, puisque à la fois elle a fait de la gravure, de la peinture, du dessin, des fresques, des décors pour des ballets, les ballets russes, des illustrations, touche à tout génial, qui en même temps que son avancée picturale et de la confiance en elle va aussi assumer son féminisme libéré, une forme d'homosexualité, parce que comme Gertrude Stein, elle a eu une amoureuse pendant 40 ans, quasiment toute sa vie. Qui disait, je la citerai aussi, il faut que je retrouve tous mes petits papiers parce qu'en fait ça part un petit peu dans tous les sens. Elle a été aussi pendant plus de 6 ans la compagne de Guillaume Apollinaire et il semblerait qu'elle ait participé vraiment concrètement à certaines poésies de Guillaume Apollinaire. Donc en plus d'avoir été la muse et l'inspiratrice de Sous le pont Mirabeau coule une rivière, donc une des poésies les plus célèbres d'Apollinaire, qu'il l'aurait écrite suite à sa rupture avec la belle Marie Laurencin.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Donc, en fait, bizarrement, l'histoire de la peinture fait encore d'elle une muse, une égérie, zappant complètement sa création personnelle et son envie phénoménale de crever le plancher, quoi. Donc, pour revenir au tout début de son enfance, sachez que elle est donc la fille d'une blanchisseuse qui l'a faite avec un député de l'Union républicaine, Alfred Toulet. Et que ce dernier ne l'a jamais reconnue, mais que par contre, il a participé de son éducation. Et donc, elle a été élevée dans un milieu aisé, bourgeois, elle n'a jamais manqué de rien. Sa mère voulait faire d'elle une institutrice, sauf que elle, clairement, ça, l'école la branchait pas. Et d'ailleurs, toutes les formations auxquelles elle a eu droit jusqu'à cette fameuse Académie Imbert, où elle va rencontrer Braque et où en fait c'est les copains de sa classe qui l'encouragent à continuer, elle va un peu toucher à tout. Donc à un moment donné, même, elle va rentrer à l'école de Sèvres qui va la former au dessin sur porcelaine. Et à la fin, quand elle va rendre l'assiette, qui doit normalement concrétiser sa petite formation, l'assiette va grandement décevoir les gens de la manufacture de Sèvres qui vont trouver son travail pas intéressant. Donc la pauvre fille, ses premières années de jeunesse sont un peu cassées, mais elle va prendre des cours du soir, elle va aller traîner dans toutes les académies de peinture ouvertes aux filles dans lesquelles elle peut se trouver un petit coin pour bosser. Donc on voit derrière ça vraiment un acharnement à l'expression picturale que je trouve merveilleux, enfin qui me rappelle d'ailleurs aussi un petit peu à moi.
D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait été surnommée la dame du cubisme.
Oui, alors sa peinture est tellement étrange et en fait inclassable, comme j'aurais tendance à traiter un peu la peinture, plus par personne que par mouvement ou par courant. Elle appartient à la fois au cubisme, au fauvisme, à l'orphisme, au nymphisme. Enfin bref, il y a plein de fismes qui s'accordent à son travail, sauf que ben voilà, en fait, il faut simplement admirer, regarder, comprendre le côté rêve. Parce que là, dans cette nouvelle génération, il y a une sublimation, il y a de la psychologie, la psychiatrie, la psychologie, l'art-thérapie. Le nouveau regard, l'importance d'avoir un nouveau regard. Comme elle dit, on était allé voir Caillebotte, on détestait la salle Caillebotte, et d'un coup, quand nos regards se sont ouverts, on ne voyait plus que ça et on a commencé à adorer et à ne plus comprendre et aimer que ce type de peinture. Donc ça, c'est super important, parce qu'elle est arrivée à un moment de transition et elle s'est pas laissée impressionner par la gente masculine. Et elle a continué son petit bonhomme de chemin, enfin son petit bonne femme de chemin, jusqu'à temps que la peinture intéresse des clients. Donc il y avait un collectionneur qui s'intéressait beaucoup justement à la peinture féminine, qui a commencé à lui acheter des tableaux, tout comme d'ailleurs Gertrude Stein, dont on a parlé, tu vois, grande dame pour encourager les nouveaux artistes et soutenir la nouvelle création artistique. Et puis du coup, prenant confiance en elle, elle a commencé à s'imposer au salon des indépendants. Et puis comme elle peignait aussi les personnalités du tout Paris, parce que en fait elle traînait avec les gens de Montmartre et de Montparnasse, aussi bien hommes que femmes, d'un milieu vraiment ultra cultivé. Elle était chez les créateurs. Mmh. Du coup, en tant que telle et en tant que peu de femmes chez les créateurs, par exemple, Gala avait cette place-là, les femmes de Pablo Picasso avaient cette facilité-là d'avoir contact avec les grands esprits de son temps. Donc, elle a aussi, bien sûr, séduit... Donc, en faisant les portraits des gens de la bourgeoisie parisienne, ça a aidé aussi, évidemment, pour l'achat des tableaux, parce que les gens sont toujours un peu émus quand ils se voient représentés, même si, parfois, la facture leur semble un peu moche. Donc... voilà, elle a d'abord eu un peu du mal à s'imposer, et puis les gens ont finalement adopté, compris le côté un peu... justement psychédélique, lié plus à de l'onirisme, du rêve éveillé, qu'une vraie réalité. Il y a un vraiment décalage.
D'où son style nymphisme aussi.
Voilà, c'est ça. Les fées, les anges.
Les nymphes, elle parle des femmes élancées.
Des femmes élancées à la peau très pâle, ouais. Qui sont un peu comme des fantômes. Des scènes aussi avec des femmes ensemble. C'est fantasmatique. Donc c'est elle qui avait dit que nymphisme ça pouvait aller, et elle s'impose quand même à côté de gars comme Braque, Picasso, Derain, Matisse. Donc elle est vraiment une pionnière peut-être du cubisme qui est en train de se faire, mais surtout le côté du dadaïsme, c'est-à-dire l'écriture automatique. Qu'est-ce qu'il y a dans les 90% que notre cerveau utilise pas, et si on libérait ça, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Donc là aussi, c'est un genre de lâcher prise de l'inconscient sur le réel, le conscient. Ouais. Et bon, faut dire que donc elle a vraiment pas de bol, parce qu'en fait, elle va épouser en 1914 un Allemand qui va être déchu. Bien évidemment, pendant la guerre, de sa nationalité, de ses biens et tout ça. Et du coup, ils vont devoir fuir en Espagne. Donc ça, ça va aussi participer de sa formation, parce que tu sais, comme moi, que c'est super important de voyager.
Partir.
Mais oui, évidemment, partir, comme tu l'as si bien su le dire, partir. Donc voilà, vivre à l'étranger, pour un artiste, c'est jamais une peine, c'est toujours en fait une grande avancée.
Mais, moment d'inspiration.
Absolument, et puis les cultures différentes, les musées, et puis bien sûr la peinture espagnole, donc bon, les Velázquez et autres.
D'ailleurs, j'ai décidé d'aller à Montmartre cet été. Je pars à Paris pour aller voir un concert et j'ai décidé que j'irai à Montmartre parce que j'y suis jamais allée et qu'à force de faire des émissions avec toi et d'entendre parler de cette histoire d'art et d'artistes qui vivaient à cette époque-là si différente de la nôtre, et ben voilà, ça m'a trop donné envie d'y aller.
Ben du coup, tu pourras aller au musée de Montmartre, le musée Suzanne Valadon, la maison où est né notre petit Momo Utrillo. Non, puis en plus, je crois que tu vas finir par connaître toutes les rues par cœur de Montmartre.
L'artiste a utilisé son sang pour créer les rouges foncés.
Vous aimez l'argent ?
Le plus que tout.
Plus que tout.
À part le gala.
Manger, c'est plus important que de peindre un tableau. On peut vivre sans peindre, mais si on mange pas, comme vous dites, on crève.
Donc du coup, donc il y a ce problème à la Première Guerre mondiale, et donc elle va revenir à Paris après. Et là, elle va faire ses trucs de peinture. Et en fait, il y a la Seconde Guerre mondiale. Et comme elle a justement cette amitié avec Max Jacob, le beau poème dans les seins de Marie Laurencin, eh ben, en fait, elle va se retrouver au camp de d'épuration de Drancy, où elle va carrément risquer de se faire tondre sa belle chevelure brune, parce qu'elle ressemble un peu à Colette. C'est un mélange entre Coco Chanel et Colette. Enfin, vous voyez, tu vois la petite coiffure garçonne, courte, très brune sur le côté. Et du coup, ouais, elle a échappé de très peu à la tonte, donc encore des épreuves de la vie. Et c'est clair que si son cœur était parisien, son cul était aussi international, comme a su si bien le dire d'autres avant elle.
Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas ?
Donc, on parlait du cul international et du cœur parisien de Marie Laurencin. Et donc, oui, parce qu'elle va avoir une flopée d'amants. Si elle va rester fidèle à sa seule et douce Nicole Graou, en tout cas, elle va avoir plein d'amants. Et du coup, bon, ça va aussi participer de sa légende et aussi de sa célébrité, j'imagine, parce qu'on arrive différemment à ses fins. Mais c'est vrai que pour moi, elle évoque vraiment... du Marc Chagall, un Marc Chagall au féminin. Et même si j'ai un peu du mal, moi, par rapport à sa peinture, il faut en reconnaître toute la beauté, sachant aussi qu'il y a des endroits où ça doit super bien aller, comme par exemple les ballets russes. Donc pour un ballet qui s'appelait Les Biches, c'est elle qui a réalisé les décors de scène. Et imaginons des danseuses et des ballets russes avec ce type d'illustration derrière, ça va parfaitement bien. Cocteau adorait aussi son travail. Enfin, les garçons peintres de cette époque que j'adore adoraient son travail. Quand on a parlé du douanier Rousseau, on a parlé d'un tableau qu'il a fait... de Guillaume Apollinaire, avec Guillaume Apollinaire et Marie Laurencin. Et je t'avais dit que Marie Laurencin, elle était énorme. Enfin, Guillaume Apollinaire, il était tout petit, tout maigre, et Marie Laurencin, dans une espèce de robe à rayures de ménagère, elle ressemblait vraiment à une mégère, et qu'alors, en fait, pas tellement que ça. Et en tout cas, clairement, elle a marqué les esprits des filles comme des garçons.
De douceur, et je sais que vous aimez Verlaine. Oh, Verlaine est un apôtre de la musique, de la douceur, du bercement, et je voudrais que vous choisissiez pour nous peut-être un poème que vous aimez particulièrement.
Eh bien, justement, il y a de la douceur, de la douceur, de la douceur. Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. Même au fort du déduit, parfois, vois-tu, l'amant doit avoir l'abandon paisible de la sœur.
L'Artichaut est une très belle émission qui parle d'art.
Je pense que l'art moderne, c'est avant tout un règlement, une ouverture et une façon d'extérioriser le problème qui a été lié à cette guerre mondiale, qu'on espérait être la dernière et qui malheureusement, en plus, il y a eu une deuxième couche, quoi. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait vu là une naissance, une émergence d'un grand courant poétique et artistique, parce que les temps, enfin, ça avait remué les consciences suffisamment fort.
Personnellement, j'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art.
Du coup, pour en revenir un peu à la carrière riche de Marie Laurencin, donc Pierre Rocher, le fameux collectionneur qui aimait la peinture féminine, l'a présenté à William Hund, qui était critique, José Cel, qui séjournait à Paris. Bon, bref, et ça arrive jusqu'au collectionneur, dont le couturier Paul Poiret, dont Tamara de Lampic a porté si majestueusement les robes. Et du coup, c'est sans doute Paul Poiret qui l'a introduite, si je puis dire, dans le cercle mondain des libertins, des écrivains de cette génération. Et à partir de 1911, alors que son couple s'effrite complètement avec Guillaume Apollinaire, parce qu'il picole beaucoup et qu'il a des crises de violence, et le couple va durer jusqu'en 1912, c'est là qu'elle va rencontrer Nicole Groulx. Donc Nicole Groulx, en fait, qui va être son amoureuse pendant 40 ans, c'est la sœur du couturier Paul Poiret. C'est comme ça que se font les liens et le réseau. Et du coup, elle s'était retrouvée à la même fête qui était une fausse vraie fête pour le douanier Rousseau, organisée au bateau Lavoir. On en a parlé quand on a parlé du douanier Rousseau, qu'en fait, Pablo Picasso lui avait fait un genre de fête, mais c'était plus pour l'humilier que pour le porter au nu, qu'il y avait eu un genre de malaise. Et à cette fameuse soirée au bateau Lavoir, Marie Laurencin était là, Gertrude Stein était là, et c'est à l'occasion de cette soirée que Gertrude Stein a acheté le tableau de Marie Laurencin, le groupe d'amis, où il y a tous les copains, et donc Guillaume Apollinaire. Donc après, sa carrière va être assez fulgurante, parce qu'une fois qu'elle plaît au tout Paris et qu'elle est devenue vraiment un personnage emblématique et qu'elle fait le buzz comme Tamara de Lampica et comme Sonia Delaunay qui sont contemporaines, sa peinture va se vendre très bien. Donc on compte dans sa création plus de 600 tableaux. Et la plupart sont partis au Japon, parce qu'en fait, Marie Laurencin, l'air de rien, elle a eu un musée au Japon qui a eu un certain succès. Donc le gars qui était tombé amoureux de son boulot et dont j'ai oublié le nom, était un ancien chauffeur de taxi qui, je ne sais pas comment il s'est goupillé, mais toujours est-il qu'il a réussi à monter un musée de Marie Laurencin à Tokyo, que le musée a fermé
au Japon.
Au Japon, ouais. Il a fermé vers 2011 et il a rouvert avec le succès et la redécouverte de l'art moderne en 2017. Et là, en ce moment, donc, il y a une rétrospective sur l'art moderne à Paris, donc je crois que c'est au Grand Palais, qui va durer jusqu'au 14 avril, dans lequel on va pouvoir voir un peu d'œuvres de Marie Laurencin. Mais bon, c'est génial parce que cette femme-là, l'air de rien, et quand on l'entend, on voit tout aussi son innocence quand elle parle du talent dit dans la langue de Braque, enfin de la bouche de Braque, et qu'elle dit qu'elle n'en revient pas, qu'elle a failli tomber par terre. Bon, on voit aussi la gentillesse et la tendresse. Enfin, elle semble beaucoup faite d'amour, cette Marie Laurencin, à tout point de vue. Sa peinture, c'est de l'amour. Ses relations physiques, elles sont nombreuses, mais c'est toujours de l'amour. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a le don de soi, si je puis dire. Alors, d'un point de vue typiquement féminin, mais c'est quand même toujours bien de le souligner quand on le sait, c'est qu'elle a ouvertement dit qu'elle souffrait de frigidité, et que ceci expliquant cela, c'est probablement pour jouir au moins une fois dans sa vie qu'elle a eu autant d'histoires et d'aventures amoureuses, autant masculines que féminines. Voilà. Donc sinon, ben voilà, rendons-lui hommage. Donc elle va mourir en 1956, donc jusqu'à l'âge de 78 ans, quand même une très belle vie.
Ouais.
Oui. Donc du coup, je pense que vous allez, si vous cherchez, trouver d'autres documents sonores et visuels.
Là,
vas-y, ouais, des reportages.
Bah, y a pas forcément, mais en tout cas, à sa mort justement, elle a laissé plus de 2000 peintures, 300 gravures et de nombreux écrits. Et du coup, je pense que si on va au bon endroit, là où on peut se renseigner dans les musées ou autres, il y a plein de choses à apprendre on détaille.
On détaille sur elle, oui, puis la lire et la relire, parce que quand on voit que quand même elle a sûrement écrit plus que d'être l'égérie du travail de Guillaume Apollinaire, et que c'est difficile aujourd'hui de faire un peu la part des choses. Est-ce que c'est une relecture? Est-ce qu'il y avait vraiment des poèmes originaux d'elle? Donc elle avait utilisé un pseudonyme parce qu'elle faisait de la poésie. Elle était, elle touchait à tout, elle était bonne en tout, elle s'intéressait à tout, elle était douée pour tout. Donc, c'est dommage que justement elle soit morte à un moment où il y avait un déclin un peu de son travail. J'ai à cœur que notre petite émission Malo puisse faire renaître tout ça pour Pâques. Oui, merci d'avoir sorti la super bonne bouille qu'elle a de
quand
de petite fille.
Jeune, elle est superbe.
Oui, puis c'est vraiment comme on le voit, des gens qui appartiennent à deux siècles, parce que quelque part, ils sont nés vraiment presque au 18e siècle, vu que ça a un peu évolué jusqu'à la révolution industrielle. Et puis elle meurt à l'ère atomique. C'est naître à la bougie et mourir à l'ère atomique. Donc, tout un grand pas. Et on voit justement, je ne sais pas quelle... quelle œuvre tu vas choisir pour l'illustration de notre petite émission radio, mais tu verras quand même que c'est riche et que c'est tendre, ce côté rêveur naïf lui va parfaitement bien. Donc merci Marie Laurencin, merci pour ta gentillesse, ton amour, ta ténacité et tes beaux seins.
Tes beaux seins. Je crois que tu avais envie, pas en entière forcément, mais de proposer un petit extrait de la chanson de l'État indien de Joe Dassin, parce qu'il la mentionne.
Exactement,
dans cette chanson.
Ben, elle est mentionnée, oui. Donc ils en ont parlé et reparlé, je pense, comme dans un portrait de Marie Laurencin. Donc on va vous en mettre un petit extrait. Et c'est grâce à Joe Dassin qu'ils l'ont redécouverte, en fait, cette Marie Laurencin. Donc merci Joe Dassin de mettre de la peinture dans la chanson populaire. Ça fait plaisir. On est bon pour l'émission, je pense.
Bah oui,
je vous aime, je vous adore. Émilie, renvoie-nous des mots d'amour. J'adore tes mots d'amour.
Et merci d'ailleurs pour le soutien et pour l'écoute. Et soyez curieux, parce que c'est toujours bien d'en apprendre en fait, sur les personnages qui ont marqué notre histoire. On a tendance à un peu oublier aussi la beauté et la grandeur de certaines personnes. Alors intéressons-nous à ces gens-là.
Il faut lire. Bon, et comme aujourd'hui, c'est un peu Noël à Pâques, on va vous mettre l'été indien. Ça fera revenir le soleil dans le Diwa.
Ça va être bien.
Je t'aime, Mallory.
Moi aussi, je t'aime, Carole. Bonne soirée à vous sur Air Diwa et bon week-end. Profitez.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore
lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir. Presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous, il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison, il va continuer le monde et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Changer de monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. La 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 la.
À la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois.